l'épopée des musiques noires.
Joe Farmer.
It don't mean a thing.
Nathalie Laporte.
If it ain't got that swing.
Jigida, kani jigi misenya, omani, kobena.
L'épopée des musiques noires.
It's okay. You know, it's okay.
Oh, merci.
Comme vous l'avez deviné à l'écoute de ces notes échappées de Jamaïque, nous allons évoquer cette semaine une grande figure de l'épopée des musiques noires, le regretté Bob Marley, qui aurait eu en 2025 80 ans. Plutôt que de vous narrer une fois de plus la destinée de cette icône universelle, nous avons décidé de remonter le cours de l'histoire avant sa notoriété à l'échelle planétaire. Et qui d'autre que Bruno Blum pour répondre à nos questions ? Soyez le bienvenu.
I and I, iration, yeah, positive.
Vous êtes en duplex de Périgueux grâce aux moyens techniques de Ici Périgord, dont je salue la collaboration fidèle. Et nous allons ensemble revenir sur la genèse d'un succès international narré dans un livre très instructif, Soul Revolution, qui réunit et commente les enregistrements de Bob Marley entre 1967 et 1972. Vous n'êtes pas seul dans cette entreprise de collectage d'archives historiques. Est-ce que vous pouvez nous présenter les deux autres auteurs de ce travail encyclopédique, Bruno Blum ?
Alors depuis plus de 20 ans, je travaille avec Roger Stephens, qui est le grand spécialiste américain de Bob Marley, qui a une maison entière remplie de souvenirs. Il a tous les concerts de Bob Marley en cassette. Enfin, c'est vraiment un dingue. Il a 7 pièces comme ça, et sa maison vient tout juste d'échapper à l'incendie qui vient de ravager Los Angeles, et qui continue encore d'ailleurs. Et Leroy Jody Person, c'est son complice américain, c'est un érudit en matière de reggae et de blues, un grand musicien américain. Et j'ai l'honneur d'avoir pu travailler avec eux sur les rééditions dont nous allons parler, et qui sont maintenant l'objet d'un livre, puisque les disques, maintenant, on n'en les trouve plus trop. Donc tout le travail de recherche qu'on avait fait méritait d'être réuni dans un livre pour éclairer la période peut-être la plus intéressante de Bob Marley, c'est celle avant le succès, les années noires, les années de galère.
Alors avant que nous n'entrions dans le détail, j'aimerais savoir pourquoi vous vous êtes lancé dans une telle entreprise de réhabilitation patrimoniale.
Parce que les disques de Bob Marley avant son succès, qui a commencé à partir de 1973, avec sa signature chez les disques Island à Londres, eh bien, il y avait eu quand même un total d'à peu près 350 titres. Alors, il y a une centaine qui sont sortis chez Studio One avant qu'ils se mettent à inventer le reggae avec quelques autres. Et toute la période de 250 titres qui restait était soit inédite, soit seulement sur des 45 tours jamaïcains totalement introuvables, voire n'existant plus qu'à un ou deux exemplaires. Et une autre partie était rééditée en Angleterre de manière complètement sans information, avec des pochettes de disques complètement nulles. Et souvent, c'était bien sûr illégal. Donc on a voulu réaliser ça dans la légalité, de façon exhaustive, avec toute l'œuvre d'un géant comme Bob Marley. C'était évident qu'il fallait le faire. Et j'ai eu l'opportunité de le faire et de monter ce coup incroyable. et on y est arrivé avec bien des embûches qui sont racontées dans le bouquin.
Nous avons commencé avec un extrait bien connu de la discographie de Bob Marley, l'album Rastaman Vibration, 1976. Mais bien avant que ses chansons et son nom n'envahissent les ondes radio au niveau mondial, il y eut les tâtonnements, les déboires, les doutes et une multitude d'enregistrements longtemps restés inconnus du grand public et dont nous allons donc parler aujourd'hui. Toute cette aventure a débuté avec la série The Complete Bob Marley and the Wailers, 1967-1972, une monumentale anthologie parue progressivement entre 1997 et 2002, qui mettait de l'ordre dans ce capharnaüm musical. Que révèlent ces archives que vous avez soigneusement préservées et restaurées ?
Eh bien, ça révèle que le génie de Bob Marley était déjà présent avant le succès, que, évidemment, il partait avec un très très lourd handicap, puisqu'il était au fin fond d'un ghetto en Jamaïque où le quotidien des gens, c'est plutôt de trouver à manger et d'arriver à subsister avec leurs enfants, etc. Et bien sûr, comme on sait bien aujourd'hui et comme avant, le succès dépend beaucoup des investissements qu'on fait sur vous, du fait que vous ayez un manager, une maison de disques qui investit de l'argent, un lieu pour organiser des tournées, un bureau. Et Marley a eu la chance incroyable de rencontrer Chris Blackwell, qui était un producteur de musique, qui a également lancé U2, King Crimson, Cat Stevens et des dizaines et des dizaines d'autres. Et il se trouve que Chris Blackwell était un blanc jamaïcain qui avait grandi en Jamaïque et il a décidé de lancer le reggae et donc de signer Bob Marley au moment où le reggae commençait à avoir un petit peu de succès en Angleterre. Mais les années qui ont précédé ça n'étaient pas disponibles, encore une fois, et je pense qu'elles valent le coup d'être découvertes parce que c'est le vrai son authentique jamaïcain avant que Marley se retrouve dans des gros studios à Londres. Et bien souvent, avec le recul, les enregistrements, notamment avec le producteur Lee Scratch Perry, sont peut-être les meilleurs de sa carrière. En tout cas, ils valent autant que ceux que l'on connaît tous.
Je vous propose, Bruno Blum, de faire un bond de 58 ans en arrière. Nous sommes en 1967 et Bob Marley enregistre Hypocrites.
Diplomatic, hip for hippocratic, try for trilandoris, tap for tapenaris, city buckets, them I got on day, city buckets, them I got on day, city buckets, them I got on day, mango.
Hypocrites, Bob Marley en 1967, extrait des archives du label JAD, J-A-D. Hypocrites, c'est une composition assez intéressante car elle dénonce un système inégalitaire et injuste. Diriez-vous qu'il s'agit du premier témoignage d'un jeune Bob Marley de 22 ans, politisé ou tout au moins activiste ?
Le premier succès de Bob Marley date de 1964, donc de la période de Studio One, où il a enregistré une centaine de titres, où c'était un peu l'école. Hein. Et il a fait du gospel, un peu de blues, un peu de soul, un peu de ska. Et le premier succès qu'il a eu était un commentaire social qui était vraiment très engagé, qui critiquait les Jamaïcains qui étaient violents. Simmer down, c'était, il leur disait calmez-vous. Donc dès le début de sa carrière, Jimmy Cliff, le grand chanteur jamaïcain, m'a dit qu'il était présent lors des toutes premières séances d'enregistrement et m'a raconté que Bob, dès le début, avait une tendance à faire une chanson d'amour, un commentaire social et une chanson, disons, très engagée. Et que ces trois facettes de sa personnalité se sont retrouvées tout au long de sa longue carrière, malheureusement qui s'est terminée à l'âge de 36 ans, puisqu'il est décédé en 1981 d'un cancer. Donc je pense que Hypocrite, qui est une magnifique chanson, qui est un rocksteady, on appelle ça en termes jamaïcains, était déjà un commentaire social, bien sûr, mais c'était pas le premier, non, non.
Bob Marley a toujours dit qu'il ne faisait pas de politique, et pourtant son esprit rebelle se manifeste très tôt dans ses œuvres. Est-ce qu'il était plus militant qu'il ne le disait ?
Alors Bob Marley était très militant. Il faut comprendre la culture rasta. Les rastas, c'est particulier, puisque c'est un contexte insulaire déjà, donc il y a une culture très particulière dans les îles qui ne se ressemblent pas. Si vous allez au Japon ou en Angleterre, ils ont vraiment des cultures à part, premièrement, et c'était dans un contexte colonial. La Jamaïque était une colonie anglaise. Les Jamaïcains n'aimaient pas toujours les autorités coloniales britanniques jusqu'à l'indépendance en 1962. Et après, il a fallu valoriser l'identité d'origine africaine. Et donc dire, regardez, on est Africains, on n'est pas plus con que les autres, on est capable de se débrouiller tout seul, on a droit au respect. Et en faisant ça, il y avait évidemment une dimension très politique, mais il ne le faisait pas sous la forme d'un politicien, comme un politicien aurait pu le faire. Il le faisait d'une manière spirituelle, en présentant Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie de l'époque, comme étant la réincarnation de Jésus-Christ, rien moins. Et évidemment, c'était extrêmement subversif dans une société coloniale, blanche, protestante, où on n'avait pas tellement envie d'entendre parler de Jésus-Christ réincarné dans le visage d'un noir, vous voyez. Et donc ça, c'est la culture rasta de base, qui montre bien que il y avait une volonté d'émancipation qui, d'ailleurs, est intervenue en Jamaïque, même si aujourd'hui, ils sont toujours sujets à beaucoup de gangsters, à beaucoup d'exploitations, de trafic, notamment l'exploitation des États-Unis qui sont pas loin. Enfin, on connaît toutes ces histoires-là. Et la Jamaïque n'échappe pas, malheureusement, à cette règle.
La musique que l'on découvre à travers ces archives que vous nous avez confiées, Bruno Blum, n'est pas encore du reggae. Est-ce qu'on peut dire que Bob Marley se cherche encore à l'époque ?
La musique évolue toujours très rapidement dans la société jamaïcaine, donc il était logique que quand on lui présente un producteur, ou quand Bob Marley trouvait un producteur, avec son trio vocal, qui était constitué de Bunny Wailer et Peter Tosh avec lui, on faisait ce que le producteur demandait, et on faisait évidemment la musique qui était à la mode à ce moment-là, donc du rocksteady, qui ressemble beaucoup au reggae, hein. Et donc il a simplement fait ce qui se faisait à cette époque-là, et d'ailleurs c'est ce qu'il a continué à faire toute sa vie.
Comme vous le précisez dans le livre Soul Revolution, Bob Marley est à la lisière de la soul music, du ska, du rocksteady. À quel moment perçoit-on les premiers échos du reggae dans ces archives que vous nous présentez aujourd'hui ?
Eh bien, dès le rocksteady, je dirais, dès Hypocrites, qu'on vient d'entendre. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de chansons qui sont devenues très célèbres par la suite, comme par exemple Satisfy My Soul, qu'il a enregistré dès 1967, et dont on a sorti une version absolument inconnue à l'époque, qui s'appelait d'ailleurs pas Satisfy My Soul, mais c'est la même chanson, qui s'appelait Rock My Boat, qui était un écho d'un vieux titre gospel, puisque, enfin, je vous épargne les explications techniques sur le contenu des chansons, mais c'est toujours très très ancré dans le gospel, très ancré dans le blues, très ancré dans une tradition avec une forte influence américaine. Mais la Jamaïque a en fait beaucoup plus influencé l'Amérique, je pense, que l'inverse. Et ça, il faut le dire, puisque le reggae était une musique très très influente. Et je trouve aussi que les rythmes jamaïcains, aujourd'hui, tout le monde en écoute, dans le monde entier. Il continue à être très très influent, notamment dans le domaine du rap. Mais c'est une autre question.
Est-ce que Soul Rebel est déjà du reggae en 1970 ?
Oui, tout à fait. La chanson de Soul Rebel. On en a d'ailleurs sorti une version complètement inconnue, qui était un des tout premiers véritables reggae. Parce que le reggae, quand ça a commencé, c'était en réaction au rocksteady, qui était très lent, très cool, très chaloupé, comme ça. Ils sont mis à faire des accélérer le tempo et tout à coup c'était comme ça au lieu d'être plus calme. Et puis après ça s'est à nouveau ralenti et il y a toujours des phases comme ça dans le reggae.
Eh bien laissons nos auditeurs juger de la tonalité reggae de ce document historique. Voici Soul Rebel.
So I'm ready.
Soul Rebel, Bob Marley and the Wailers en 1970. Bruno Blum, trois producteurs majeurs ont accompagné Bob Marley à cette époque de tâtonnement musical. Il y eut Coxon, Dowd, Lee Scratch Perry et Leslie Kong. Lequel a été à vos yeux l'artisan du son reggae popularisé par Bob Marley ?
Plusieurs producteurs ont créé le son du reggae. Et il y a eu un nombre inimaginable de disques qui sont parus dans les années 60 et 70 en Jamaïque. Donc on ne peut pas dire c'est l'un ou l'autre. Mais disons que Leslie Kong a une grande importance et Lee Scratch Perry, par son originalité et par le fait aussi qu'il ait travaillé beaucoup avec Bob Marley and the Wailers, a beaucoup compté et il était, disons, proche des musiciens qui ont créé ces rythmes-là. Mais comme toujours en Jamaïque, c'est un mélange de différentes influences qui sont partagées par plusieurs musiciens. Là-bas, quand quelqu'un a une idée, tout le monde la repique tout de suite, le jour même. Dès qu'il y a une bonne idée, un thème de chanson, tout le monde en fait une. C'est très très familial comme ça. Et ça fait partie de la beauté du reggae. Je vous remercie d'avoir passé cette version de Soul Rebel parce qu'elle était inédite à l'époque.
Ouais.
On en connaît une version plus connue. Hein. Il y a eu beaucoup de choses comme ça et le son qu'on vient d'entendre, c'est vraiment la naissance du reggae. C'est le véritable, ce qu'on a appelé le reggae à l'époque, même si le rocksteady ressemblait beaucoup. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de pouvoir mixer des titres de Bob Marley and the Wailers de cette époque-là, de 68 exactement. Et donc, c'était important de restituer le véritable son jamaïcain de l'époque à partir de bandes. Et on a eu la chance de mettre la main sur des bandes qui ont permis de faire découvrir l'authentique son jamaïcain du reggae avant qu'il soit tripatouillé avec succès en Angleterre.
Ce qui est amusant quand on farfouille dans la préhistoire de Bob Marley, c'est que le son, le répertoire, l'engagement, tout est déjà là. D'ailleurs, beaucoup de chansons commentées dans votre livre Soul Revolution sont devenues des classiques comme Concrete Jungle, Natural Mystic, Kaya, Satisfy My Soul. Diriez-vous que Chris Blackwell, qui a hissé Bob Marley au rang d'étoile planétaire, n'a fait qu'exploiter finalement un patrimoine existant ?
Oui, je pense qu'il a beaucoup apporté, alors bien sûr par ses investissements qui étaient essentiels, par le fait qu'il est déjà une marque de disques, les disques Island, une marque de grande qualité. Il a aussi apporté des éléments musicaux, puisque c'est lui qui a proposé d'ajouter des solos de guitare pour donner ce côté rock, présenter une image rock avec un groupe. Et puis surtout, il a fait un mixage qui correspondait aux besoins des radios anglaises et mondiales. Et je pense qu'il est très important de comprendre que, d'une manière générale, les producteurs jouent un grand rôle dans la musique et que si vous n'aviez pas, par exemple, George Martin avec les Beatles, ils auraient sans doute jamais réussi. Et il y a beaucoup d'exemples de ça, puisque le son, c'est quand même lui qui décide, parce qu'il sait ce qu'il va vendre, ce qu'il va pas vendre, etc. Les musiciens, eux, leur boulot, c'est pas ça, c'est de chanter, c'est de composer des chansons, etc., etc. Bien sûr, ils ont un apport musical important, mais oui, il faut rendre hommage aux producteurs.
Et en même temps, il n'y a pas que la production, il y a l'authenticité d'une œuvre et la musicalité des artistes.
Vous savez, quand on vient d'un ghetto comme Trenchtown à Kingston, où j'ai beaucoup séjourné, je vous assure qu'il n'y a pas besoin de se forcer beaucoup pour être authentique. Hein. Là-bas, les gens n'ont pas de chaussures. Il y a une volonté qui est toujours une volonté de dire les choses que l'on n'entend pas à la radio, justement. Une volonté de dire ce qu'on dit dans la rue. Et le reggae, même transposé en Angleterre, c'était une musique de la rue, de la Jamaïque. Et Bob Marley a toujours représenté ça. Et je pense que c'est ce qui fait beaucoup son succès. J'avais parlé de ça avec Fela Kuti, le grand musicien nigérian. Et il m'avait répondu que le succès de Bob Marley n'était pas dû à sa musique, mais qu'il était dû à ses paroles. Parce qu'il s'adressait vraiment au peuple. Et aujourd'hui, son succès planétaire, qui perdure quand même, hein, il reste une des grandes icônes du XXe siècle, à une époque où des gens comme Elvis Presley ou Frank Sinatra sont un petit peu oubliés, Louis Armstrong. Moi, j'ai enregistré en Érythrée, au bord de la mer Rouge. On a fait un album et les musiciens là-bas ne connaissaient pas les Beatles, James Brown, les grands noms américains comme ça, ils connaissaient pas. Mais ils avaient tous un amour éperdu pour Bob Marley. D'ailleurs, il voulait jouer du reggae et on l'a fait. Il y avait un poster, une affiche de Bob Marley dans le studio. Et je pense que c'est pour ça qu'il dure. Et je crois qu'on retrouve ça déjà dans son œuvre du début. Et je vous invite à la découvrir parce qu'elle est encore plus authentique que les disques les plus connus qu'on a tous entendus et qui sont formidables aussi.
Bruno Blum, dans votre livre, page 231, vous restituez la première interview enregistrée de Bob Marley par l'animateur de radio et de télévision Neville Willoughby. C'est en décembre 1973. L'album Burning venait de sortir. Et nous avons retrouvé le document audio de cet entretien. Et déjà, Bob Marley semblait fatigué par la pression croissante de l'industrie du disque. Écoutez.
Il est vrai que j'ai pu par le passé m'impliquer un peu plus dans le business de la musique. Et puis subitement, j'ai eu l'impression que je m'amputais des deux bras dans ce milieu. Ja m'a dit de faire attention, d'y aller, mais cool, d'observer les gens autour de moi, d'être plus posé. Et je suis heureux de pouvoir dire que cette attitude m'a permis d'aller encore plus loin. Et puis je répète, je ne fais pas ce métier pour l'argent ou pour plaire au business. Je suis le message de Ja. Je voyage pour transmettre ses paroles en Angleterre, aux États-Unis ou en Australie.
Bruno Blum, pensez-vous que Bob Marley était fait pour la renommée? A-t-il vécu sa notoriété avec aisance et sérénité?
C'est difficile de répondre à ça. Ce que je peux vous dire, c'est que les années noires qu'on a rééditées expriment une grande amertume de s'être fait arnaquer par tous les producteurs avec lesquels ils ont travaillé quand même pendant une dizaine d'années avant d'enfin arriver à percer en Angleterre, et que donc il y avait une très forte dimension de persévérance et de désir de réussite et de désir d'argent aussi, de vivre dignement. Bob avait déjà, en 1973, quand il a commencé à réussir un petit peu, et encore, il a fallu attendre No Woman No Cry en 1974-15 pour que ça marche vraiment. Il avait déjà 2-3 enfants, c'était pas facile pour lui, sa femme faisait des ménages. Donc je crois que le succès a été certainement une grande satisfaction pour lui. Il a fait beaucoup de jaloux, notamment les musiciens de son groupe, les Peter Tosh et Bonnie Wailer. Et je crois que non, il n'a pas mal vécu ça. Je crois que c'était pour lui un formidable accomplissement que d'avoir eu du succès. Et malheureusement, il n'a pas pu en profiter très longtemps puisqu'il est décédé 5 ans après. Et c'est vraiment une tragédie que l'histoire de sa vie, puisque après tous ses efforts et toutes ses galères, il a réussi à jouer dans les plus grands stades. Il a vendu plus de billets que le pape en Italie. Dans le même stade, je ne crois pas qu'il y ait eu de problème par rapport à ça. Ce qui est certain, c'est que avant le succès, il a eu beaucoup de problèmes avec ses producteurs qui eux-mêmes avaient des problèmes d'argent.
Sur l'album Rastaman Vibration, avec lequel nous avons commencé cette émission, il y a le titre War, dans lequel il cite l'empereur Haïlé Sélassié d'Éthiopie, et vous avez vous-même traduit ce texte en français dans une version que vous avez éditée ultérieurement. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce projet ?
Alors quand je travaillais sur les enregistrements, donc les rééditions à Abbey Road, etc., avec le grand spécialiste américain Roger Stephens, il y avait une chanson particulièrement intéressante qui était le premier manifeste Rasta de Bob Marley, qui s'appelle Selassie the Chapel. Et Roger Stephens avait l'enregistrement du discours fondateur de l'Organisation de l'Unité Africaine, l'OUA, qui avait été enregistré aux Nations Unies par Haïlé Selassie en 1963. Et il se trouve que ce discours était devenu la chanson War de Bob Marley. Until the philosophy which holds one race superior and another inferior. Et que cette chanson, qui jouait toujours sur scène, avait donc une version originale, c'était le discours lui-même. Donc j'ai été voir les musiciens de Bob Marley, je leur ai dit, écoutez, on va réenregistrer War et on va mettre la voix de Haïlé Selassie, vous vous rendez compte, le Messie en personne, en train de prononcer ce discours. Et ça a marché tout de suite en Jamaïque, ça a eu beaucoup de succès, ça a commencé à accrocher même à la radio en Jamaïque. Et il y a un DJ français, un Rasta, qui m'a dit, il faut absolument que tu fasses une version française, parce qu'à l'île de Gorée, au Sénégal, etc., on comprend pas l'anglais, on comprend pas l'amharique éthiopien, et on veut entendre ça, donc on l'a fait avec les Wailers, et on a eu beaucoup de succès dans toute l'Afrique francophone. On a écouté ce morceau qui donne le point de vue de Haïlé Selassie et de l'organisation de l'Unité africaine qu'il présidait, qu'il avait fondée à l'époque de la décolonisation, donc en 1963, et que ça en soit devenu un reggae est tout à fait significatif du sens et du message profond du reggae et de la décolonisation de l'époque.
Je pense qu'il est essentiel que nous diffusions ce message à nos auditeurs. Voici donc War ou Guerre par Bruno Blum sur la musique des Wailers.
Tant que la philosophie, qui considère qu'une race est supérieure et une autre inférieure, ne sera pas finalement et en permanence discréditée et abandonnée, Tant qu'il y aura des citoyens de première et de seconde classe dans une nation, tant que la couleur de la peau d'un homme aura plus de signification que celle de ses yeux, tant que les droits de l'homme de base ne seront pas garantis également pour chacun sans distinction de race. Tant que ce jour ne sera pas arrivé, le rêve d'une paix durable, d'une citoyenneté mondiale et le règne de la moralité internationale ne resteront que des illusions fugitives, poursuivies mais jamais atteintes. Et tant que les régimes mal inspirés et ignobles qui détiennent nos frères en Angola, au Mozambique et en Afrique du Sud dans des chaînes inhumaines ne seront pas renversés et détruits, tant que la bigoterie, les préjugés et les intérêts personnels n'auront pas été remplacés par la compréhension, la tolérance et la bonne volonté, tant que tous les Africains ne seront pas debout et qu'ils ne parleront pas en tant qu'êtres libres, égaux aux yeux de tous les hommes comme ils le sont aux yeux du ciel, tant que ce jour ne sera pas arrivé, le continent africain ne connaîtra pas la paix.
Les mots d'Haïlé Selassie traduits par Bruno Blum sur une musique des Wailers. Voilà un message fort utile en ce début de 21e siècle, particulièrement inquiétant. Bruno Blum, une fois de plus, ce fut un bonheur de converser avec vous. Je rappelle que votre livre collégial avec Roger Stephens et Leroy Jolly Pearson est disponible aux éditions Frémo et Associés. Il s'appelle Soul Revolution. Il accompagne avec goût vos autres productions discographiques et anthologiques consacrées à la culture caribéenne. Merci mille fois Bruno Blum d'avoir célébré le 80e anniversaire de Feu Bob Marley avec nous.
Mes amitiés à tous et à toutes, et je salue particulièrement les Africains qui nous écoutent et qui, je n'en doute pas, auront apprécié d'entendre parler un petit peu de Bob Marley.
Vous travaillez sur autre chose actuellement ?
Je prépare un nouvel album qui sera entièrement acoustique et qui contiendra d'ailleurs quelques reggae et quelques ska jamaïcains francophones, et un autre livre sur les relations entre les musiques des Caraïbes et les musiques des États-Unis qui se sont beaucoup influencées les unes et les autres. Et je pense que c'est un message essentiel de rappeler quand même le rôle des Caraïbes et d'une manière générale les îles et des colonies du monde, parce que c'est toujours les États-Unis qui ont tout inventé. Eh bien non, il y a des influences qui viennent d'ailleurs parfois.
Merci beaucoup Bruno Blum et à une prochaine fois.
Mes amitiés Joe Farmer.
L'émission du jour a été réalisée par une Rasta Woman aux dreadlocks scintillants, Nathalie Laporte, avec le concours indispensable de Clément Baudouin depuis la régie de Ici Périgord, que je remercie chaleureusement. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.
I am a Rasta man, you know, I stand Rasta. I am a Rasta being Rasta.